Donc, il va falloir faire travailler votre mémoire parce que là, je vais commencer à résumer. Alors, j'avais un problème quand j'ai regardé le calendrier. Je me suis dit, waouh, on fait un dimanche. Après, il y a quatre orateurs. Ils vont se rappeler de rien du tout, et moi non plus. Et comment on va faire ça? Et puis, j'ai tourné un peu en rond, à vrai dire. J'ai prié. J'étais là à mon bureau. Je cherchais, je priais. Comment je vais faire? Et il s'est passé des choses très étranges. Donc, vous allez voir, ça va être un peu inhabituel. Voilà, on va changer un peu le... Oh, ce serait sympa parce que j'aime pas tenir les micros. Alors d'abord, on va être obligé de faire un résumé. D'abord, pour ceux qui connaissent pas trop, pourquoi on fait un mois de la famille? Alors, je pense que plus que jamais, on a besoin de connaître la parole de Dieu. Alors même aux États-Unis, où moi j'ai toujours été admirative, les anglophones en général, pas seulement les Américains, ils connaissent extrêmement bien leur Bible. D'ailleurs, ça a toujours été depuis la réforme. Moi j'ai fait un diplôme de littérature anglaise. Pratiquement tous les auteurs font des références à la Bible, même ceux qui sont contre. Je prends Thomas Hardy par exemple, qu'on a étudié pour l'agrégation. Chaque tête de chapitre, et puis c'est un pavé comme ça, d'un roman, chaque tête de chapitre avait un verset biblique. Alors mes pauvres collègues qui connaissaient jamais la Bible se dépêchaient de la lire, en plus dans la version King James, parce que c'était voilà. Ils ont souffert, les pauvres filles, moi je rigolais, parce que je l'avais déjà lu plusieurs fois, donc c'était tellement simple pour moi, ils ont vraiment souffert. Voilà, c'est le problème, c'est que ces gens connaissaient très bien la Bible. Et maintenant, j'ai lu récemment que la connaissance de la Bible, même aux États-Unis, je crois que l'enquête portait sur l'Amérique du Nord, est en train de baisser dangereusement. Et c'est ce qui a fait la force des chrétiens. Et attention de ne pas avoir l'impression de connaître la Bible. Parce qu'on en parle tous les dimanches, parce qu'on la cite quand on prie pour les gens, parce qu'on chante des versets bibliques. Et en fait, ne pas la connaître personnellement. Et c'est le risque qu'on court tous. Donc c'est un petit peu pour ça que je vais insister. Et c'est là que le Seigneur m'a emmenée. Je ne savais pas trop où j'allais aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas commencer vraiment une étude du fait que dans 4 semaines, on ne peut plus savoir où on en est. Voilà, donc on va parler d'abord du besoin de connaître la parole de Dieu, la Bible. Les histoires de la Bible, bien sûr, les personnages, leur vie, leurs succès, leurs échecs, et pas seulement David a eu la victoire sur Goliath. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut connaître et on a besoin de connaître la Bible? D'abord, pour voir à quel point on ressemble aux personnages de la Bible, malgré les différences d'époque et de culture. Et ça, c'est fou. Le cœur de l'homme, lui, n'a pas changé. Les cultures ont changé, les façons de faire, mais l'homme, le cœur de l'homme n'a pas changé. Et c'est quand même choquant de lire l'histoire de Saül, comme on a fait l'année dernière, et David, etc. Et de voir que on a toujours les mêmes réactions. On n'a pas bougé. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans après. Le cœur de l'homme n'a pas changé, hélas. Vous savez comment la Bible définit le cœur de l'homme? Il est tortueux, méchant, voilà. Why? Ça n'a pas changé. Les réactions du cœur humain sont toujours les mêmes. Alors, on peut faire une liste épouvantable. On a une grande sensibilité à l'orgueil, à la gloire, à la vengeance, la recherche de l'argent, de la richesse en général, l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté parfois. Et c'est vrai que quand on pense par exemple à l'avortement, on dit « Oh mais maintenant ça y est, la cruauté, c'est bien décrié dans les journaux, chaque fois qu'il y a un acte cruel, tout le monde fait « Oh !» etc. » Mais bon, on continue à tuer des bébés sans sourciller. Et ça semble très choquant quand on en parle comme ça. Et si on veut passer une vidéo, comme certains l'ont fait à la Chambre des députés, les gens ne veulent pas voir, évidemment, parce que ce n'est pas un acte de bonté particulier pour l'enfant. Mais bon, on est capable de sacrifices, étranges. Mais aussi, on est capable d'amour et de désintéressement. De temps en temps, dans les journaux, il y a un petit article là-dessus, et c'est vrai, l'homme n'a pas changé. Il est aussi capable, de temps en temps, de bien se comporter, d'avoir un réel désintéressement. Une autre particularité de l'homme qui n'a pas changé, même si ça revêt d'autres aspects, c'est que l'homme cherche toujours un dieu ou des dieux qui vont le protéger, lui assurer une sécurité, le bénir, lui donner la victoire sur ses ennemis, des dieux qui vont l'aider à bien faire de temps en temps. un Dieu qu'on adore avec toutes sortes de sacrifices, de cérémonies, de rites et d'objets symboliques. Alors vous allez me dire, on met depuis la Révolution quand même. En France, on a fait des progrès, ah oui. Et le culte de la raison, 1789, avec une prostituée qu'on avait mise, ou une actrice, une chanteuse, c'était pas très clair, qu'on avait mise sur l'autel et qu'il fallait adorer la raison. Ça a pris d'autres noms, ça prend d'autres aspects, mais on a toujours ces objets symboliques qu'on veut adorer. On a choisi la raison en France. Il y a toujours eu des êtres humains, par contre, qui veulent aller au-delà des rites, qui veulent aller au-delà des apparences, qui veulent une relation avec Dieu, du vrai, de l'authentique. Et là, il y en a toujours. Il y en avait dans la Bible. Et on en a toujours. Qui préfèrent l'obéissance au sacrifice, ou plutôt moins qui choisissent l'obéissance plutôt que le sacrifice. Il y en a encore. Il y en avait à cette époque et il y en a encore. Ces gens-là ne sont pas parfaits, loin de là, mais ils cherchent à s'aligner avec le cœur de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'on a choisi en tant qu'Église. Chercher à s'aligner avec le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Et on rame tous, plus ou moins. Hein. Mais on cherche. Et c'est ça qui est important pour le Seigneur. D'un autre côté, si on prend la Bible, Dieu, lui, il est toujours le même. Il n'a pas bougé non plus. Nous, on n'a pas beaucoup bougé. Mais lui, il n'a pas bougé. Il est resté le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que les miracles qu'il a fait hier, il peut les faire aujourd'hui, il les fera demain. L'amour qu'il a eu pour David repentant, il l'a aussi pour nous quand on se repent, et même quand on ne se repent pas, son amour est inconditionnel. Mais sa bénédiction, comme on l'a très bien dit, je ne sais plus, je crois la semaine dernière, sa bénédiction, elle, est conditionnelle, mais son amour ne bouge pas. Alors depuis 2015, j'ai réalisé qu'on avait commencé avec le livre de Samuel, et je me suis engagée dans un chemin, je ne m'attendais pas à ce que ça mène si loin, parce qu'en fait, 2015, vie de Samuel, 2016, Samuel et Saül, 2017, Samuel, Saül et David. Mais les trois sont tellement liés, ils ont tellement marqué l'histoire biblique qu'il est difficile de voir l'un sans les deux autres. Donc du coup, je me suis engagée dans un truc qui m'a dépassée. On est encore avec Samuel, Saül et David pour cette année. Alors pourquoi je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, là je me suis engagée dans un truc un peu compliqué, je peux plus m'en sortir, là il faut que je continue, je peux plus aller en arrière. Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est important pour nous de voir l'action de Dieu, pas seulement dans l'histoire d'une personne, hein, je me souviens on a fait Esther, Ruth, etc. Pas seulement dans l'histoire d'une personne, mais sur une plus longue période, 2, 3, 4, 5 générations. Parce que l'histoire pour Dieu n'est pas un cycle. Vous savez, vous avez déjà entendu ça. Hein. Voilà, on naît, on se marie, on a des enfants, on meurt, et ploup, les enfants prennent la suite. Et voilà. Et ça, tous les peuples païens, tous les peuples non chrétiens pensent que la vie, c'est ça, ce cycle qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et puis Camus l'a très bien dit, pour les enfants qui vont étudier Camus à l'école, là, vous pouvez écouter, Camus, avec le mythe de Sisyphe, a très bien expliqué que Sisyphe montait sa pierre le long de la montagne, elle redescendait, il reprenait sa pierre et la remontait le long de la montagne. Pour lui, c'était le symbole de la vie. Bon, eh ben c'est pas du tout ça avec le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important de voir ce qui se passe sur 2, 3 ou 4 générations. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va leur donner de ce cycle en fait énorme, Samuel, Saül, David. Eh ben je pense que ça va nous permettre de voir un petit peu l'action de Dieu dans l'histoire. Parce que Dieu, il a un plan. Il nous fait pas tourner en rond. Sauf quand vraiment on désobéit et qu'il nous emmène dans un petit désert et qu'il attend qu'on change. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour notre vie, Dieu a un plan. Pour son peuple, il a un plan. Pour l'homme en général, il a un plan. Et il est présent dans notre histoire. Il nous parle. Et là aussi, il n'a pas changé. Il parle toujours aujourd'hui. Il intervient miraculeusement. Il donne la victoire. Il délivre. Il va même jusqu'à ridiculiser les idoles. Vous vous souvenez quand l'Arche de l'Alliance s'est trouvée dans le temple de Dagon et ce pauvre Dagon qui se cassait la figure régulièrement. C'est impressionnant. Il ridiculise les idoles. Il patiente aussi. Ah, la patience de Dieu. On a du mal à comprendre la patience de Dieu. Ça nous énerve parfois parce qu'on aimerait bien qu'il châtie certaines personnes. Hein. Parfois, on se dit, mais comment il a laissé Hitler sévir pendant tant d'années ? Patience de Dieu. Il dirige la succession des événements et il sait mettre un terme à l'injustice. mais dans son temps. Et c'est ce qui est un peu difficile pour nous, parce que nous, on est soumis au temps. Pour nous, il existe. S'il n'existait pas pour Einstein. Mais c'est vrai qu'il existe et c'est dur, hein, le temps de Dieu. Alors, ces histoires de la Bible, c'est important déjà qu'on se mette bien en tête que ce ne sont pas des contes de fées ou des mythes. Alors, vous allez me dire, oh, mais évidemment, nous, on est chrétiens, on y croit. Mais quand même, au fond de notre cœur, oui, bon, mais c'était David. Bon, mais c'était pas l'apôtre Paul. Oui, bon, mais c'était Gédéon. Ces histoires ne sont pas des contes de fées ou des mythes. D'abord, alors ça c'est important pour les jeunes aussi, on retrouve dans la Bible des lieux géographiques connus. Je le répète souvent, mais c'est important. Quand vous lisez un conte de fées, c'est « il était une fois, il y a très longtemps, un roi, etc. » Là, c'est « où, quand, comment ». On sait où ces choses ont lieu. Les archéologues ont retrouvé, pas tous les lieux, attention, mais beaucoup de lieux cités dans la Bible. On situe aussi facilement l'époque. C'était pas il y a très longtemps, c'était à telle et telle époque. Bon, évidemment, on a moins de renseignements entre Adam et David qu'à partir de David. Alors là, les richesses archéologiques sont fantastiques. Donc là, on est dans une période où vraiment les choses sont très claires historiquement. Les personnages sont réels. Jonas. J'ai toujours le problème avec mes élèves, j'ai toujours eu ce problème, mais Madame Jonas, c'est une histoire. C'est un personnage réel. Il lui est arrivé quelque chose de tout à fait inhabituel. Mais vous savez, si vous vous amusez parfois, je ne vous le conseille pas forcément, mais à regarder les... Comment ça s'appelle ces trucs, cette sorte de petite vidéo où... comment c'est, la réalité dépasse la fiction ou des choses comme ça. Et vous apercevez qu'il arrive quelquefois à des gens des choses incroyables. Ben Jonas, il en fait partie. Ceci étant, j'ai lu un extrait, je crois que c'est quand j'étais au Canada, d'un marin pêcheur à la baleine, dans le nord du Canada, qui a été récupéré à l'intérieur d'une... C'était une vraie baleine. Dans Jonas, on dit que c'est un poisson, hein, qui a été récupéré à moitié mort, mais bon, je crois qu'ils ont réussi à le sauver. Il avait été avalé par une baleine. Tout à fait inhabituel, ça n'arrive pas souvent. Mais ça a été un cas qui est vérifié dans l'histoire, hein, de la pêche au Canada. Donc voilà, il arrive parfois des choses étranges. Donc les personnages sont réels, ils sont historiques. Et on les retrouve parfois cités par Jésus. Et là, c'est un gage de vérité aussi. Hein. Cité par Jésus. Jésus a cité Jonas. Et il faut penser que Jésus, c'est 1000 ans après David. Et il va citer certains événements. Impressionnant. Les peuples ennemis qui sont mentionnés sont bien réels. Alors là, ils sont complètement attestés par les découvertes archéologiques. Un très grand signe d'authenticité de la Bible. Et ça, il faut le garder toujours présent à l'esprit quand les gens nous disent « Oh oui, mais la Bible, elle exagère un petit peu. » Non, le grand signe d'authenticité pour moi, c'est que les personnages de la Bible ne sont jamais idéalisés. Prenez n'importe quelle biographie, surtout ancienne. Alors là, surtout à cette époque-là. Bon, je crois qu'au XXIe siècle, on fait un peu plus attention. Quoique. Mais à cette époque-là, les personnages importants étaient complètement idéalisés. Ils étaient parfaits, ils étaient rayonnants. Même après, on leur mettait des auréoles et tout. Hein. Mais dans la Bible, ces personnages ne sont pas idéalisés. Ils sont peints avec vérité, complètement dans leur dimension humaine. Et c'est ça qui est important pour nous. Et pourquoi on les étudie dans le mois de la famille ? Parce qu'on les voit dans leur dimension humaine. Ce n'est pas des surhommes. Parce qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut les imiter ? Non, c'est des gens tout à fait normaux. On parlait tout à l'heure d'écouter. Enfin, je vous en parlerai peut-être après. Mais j'ai écouté cette semaine quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Non, j'en reparlerai tout à l'heure, j'espère que je n'oublierai pas. Mais il avait insisté sur la notion, justement, que les personnages de la Bible sont totalement humains. Totalement. Et il faut beaucoup de courage pour un juif. Quand il écrit la vie de David, pour montrer les défauts de David. Parce que David, pour les juifs, c'est quand même le roi. Ils ont mis sur leur drapeau, d'ailleurs, l'étoile de David. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais voilà. Et être capable de montrer les défauts de cet homme, c'est de la folie, quoi. C'est pas raisonnable. Mais c'est biblique. L'homme, il est homme. Il n'y a pas de héros extraordinaire, sans faute et sans péché, sauf Jésus. D'autant plus vrai que Jésus, lui, on le montre effectivement sans péché. Signe d'authenticité supplémentaire. C'est pourquoi on peut assurer en tant que chrétien que la Bible est vraie. Et comme la Bible est vérité, je crois qu'on est arrivé à cette conclusion, eh bien, et que c'est la vérité qui nous rend libres, comment est-ce qu'on va trouver la liberté sans une lecture suivie, sérieuse de la parole de Dieu? Et là, je m'adresse à moi et à nous tous. Il faut qu'on fasse un effort supplémentaire pour lire notre Bible davantage. Et je vais essayer de vous y aider. L'idée du mois de la famille, cette année, c'est vraiment que les jeunes et les moins jeunes puissent lire la Bible avec plaisir. Parce que si on lit la Bible en se disant « je dois lire la Bible, il faut lire la Bible, je dois lire mes 20 versets ce matin et mes 10 versets ce soir, etc. » c'est pas tout à fait l'esprit que Dieu cherche. Mais ce que je voudrais, c'est que tous, on puisse lire la Bible avec plaisir. Et il y a des gens qui m'ont appris à lire la Bible avec plaisir. Ils m'ont rendu fan. Et malgré ça, il y a des fois où j'arrive pas à la lire comme je voudrais. Donc je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment qu'on s'accroche. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on a un trésor quand on a notre Bible là, et c'est pas un livre normal. Non, franchement, il n'est pas normal du tout. Hein. D'abord, un livre écrit sur une dizaine de siècles. 66 livres écrits par des auteurs, une quarantaine d'auteurs, je crois, complètement différents. Vous avez un berger, vous avez un aristocrate, vous avez un pêcheur de poissons, un médecin, un roi, n'importe quoi. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui essaierait de rassembler 40 auteurs et dans la même période et leur faire écrire 66 livres à peu près sur le même sujet et qui ne se contredisent pas ? Même sur la même période, ce serait difficile. Alors vous imaginez, sur autant de temps, ça, c'est fou, c'est complètement fou. Écrit sur une dizaine de siècles. Ce livre n'est pas normal. Après, comment est-ce qu'il peut être cohérent ? C'est pas normal. Et comment il peut s'appliquer à notre vie au XXIe siècle ? Hein, il a été bouclé au cours du 1er, 2e siècle. Donc 20 siècles après, 19, 20 siècles après, il s'applique toujours ? C'est bizarre. Pas normal. Il nous offre des textes qui peuvent nous parler même à la 100e lecture. Et ça, c'est fou. Moi, je lis ma Bible depuis mes 6 ans. J'ai commencé par la Genèse, en plus, je m'en souviens. Je m'asseyais dans l'escalier. Et on n'avait pas beaucoup de bouquins à la maison et j'aimais énormément lire. Et donc, j'ai commencé par la Genèse et on m'a laissé faire. Je bloquais l'escalier et je lisais dans l'escalier. Pourquoi dans l'escalier ? J'aimais bien l'escalier. Et je me souviens quand de temps en temps, je criais à mes parents, ça veut dire quoi, anathème? Je me souviens de celui-là, mais régulièrement, quand il y avait un mot que je connaissais pas, je criais tout fort et de la cuisine, là où l'autre me répondait. Et malgré ça, je relis ces textes avec toujours autant de plaisir et je trouve des choses. Alors, par exemple, la vie de Joseph, je l'ai faite, je sais pas combien de fois à l'école du dimanche, je l'ai faite pour moi, je l'ai faite en réunion de dames. Et maintenant, si je retombe dessus, je retrouve des choses que je n'ai pas vues. Mais ce n'est pas normal. Ça ne m'arrive jamais avec un autre roman. Hein. Pourquoi ? Ah, la Bible n'est pas normale. Alors, la Bible est parfois comparée à un mets succulent. Alors, moi, je l'ai comparée à quelque chose que André considère comme succulent, ce sont les millefeuilles. Et la Bible est un millefeuille. C'est incroyable. D'abord, vous avez sur le dessus, le glaçage, l'histoire toute simple. David s'est battu contre Goliath, il a eu la victoire, blabla. C'est déjà pas mal, c'est formidable. Mais en dessous, il y a ce qu'on va appeler bêtement la morale ou la conséquence de cette histoire. En dessous, on commence à atteindre le feuilletage là. Et puis, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur nous les humains ? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur Dieu, sur son caractère ? Encore une autre couche. Et puis sur sa façon d'agir avec nous, son amour, sa patience, sa protection, etc. Ça, c'est encore une autre couche. Puis encore une autre couche, elle va plus loin. Elle nous parle, elle nous donne des directives pour notre vie. Un message. D'ailleurs, c'est David qui a écrit, je crois, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », psaume 119, je ne sais plus quel verset. Et vous savez qu'à l'époque, il faut se remettre à l'époque, hein, Les lampes, c'était des lampes à huile. Ça éclairait à peu près sur un mètre carré, hein, pas plus. C'est-à-dire que la Bible est effectivement une lumière pour nous, pour savoir où on va mettre les pieds. Une lampe à mes pieds. Et la lumière, c'est pas un spot, c'est pas un phare, c'est pas un projecteur. C'est juste ce qu'il faut pour que j'y voie clair, aujourd'hui, là où je suis. Et c'est ça qui rend quelquefois les choses un peu problématiques avec la Bible. Parce qu'elle nous permet un pas à la fois. Et elle ne nous permet pas de courir comme un malade. Parce que sinon, on n'a pas le temps de voir où on met les pieds. C'est-à-dire qu'avec la Bible, on sait où on met les pieds. On sait sur quoi on va s'appuyer. On sait quels sont les obstacles qu'on va éviter, juste là devant. Si on en tient compte, ça sera formidable. Mais ça nous donne une dépendance, hein, une lampe à huile. Moi, je préférerais parfois que la Bible soit un énorme projecteur, que je vois un kilomètre devant moi. Elle demande une marche, un pas à la fois. Et c'est ça peut-être qui rend les choses un peu plus compliquées, parce qu'il faut la lire tous les jours. Par contre, si on marche à la lumière de notre raisonnement, ça aussi c'est une lumière. Les Français sont les premiers à dire le siècle des lumières. La lumière de notre raisonnement, elle ne va pas nous emmener très loin. On peut avancer, mais on ne saura jamais où on met les pieds. On le sait après. Donc ça, c'est plus embêtant. Donc il faut mieux marcher à la lumière de la parole de Dieu. Alors, l'esprit dans lequel on est appelé à agir quand on lit la Bible, c'est pas fait ou ne fait pas. Il faut ou il faut pas. Tu dois ou tu dois pas. Il y a un côté code de la route, c'est vrai, je le dis souvent aux enfants. Oui, la Bible, elle a un petit côté code de la route. Mais elle fait plus attention aux motivations. Et vous l'avez vu pour ceux qui ont fait le cours ces deux week-ends. Les motivations peuvent totalement changer. Même les meilleures actions peuvent être gâchées par les mauvaises motivations. Ouais, c'est fou ça. Et la Bible, elle y pense à ça. C'est terrible. Je crois qu'on pourrait encore découvrir d'autres feuilles, mais je vais juste lire quand même le 1 Corinthiens 10, 6. J'espère le retrouver vite. C'est la Bible elle-même d'ailleurs, c'est Paul là, qui parle et qui nous dit ce qui est écrit dans la Bible. Il vient de parler des Israélites qui ont tourné dans le désert, etc. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, il y a aussi une façon de lire la Bible et de la comprendre. Alors, évidemment, je cite toujours cet exemple. Si on ne veut pas lire la Bible n'importe comment, il faut mieux être attentif où est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on lit. Et on va en parler tout à l'heure. Parce que si on lit la Bible n'importe comment, on peut lui faire dire des choses complètement contraires. Alors l'exemple que donnait toujours le vieux pasteur Nicole, qui est un grand-grand-grand-oncle de Jean-Baptiste, qui a amené le réveil en France, au Havre et puis à Rouen, il disait toujours, il racontait cette blague, la personne qui est déprimée, elle ouvre sa Bible, la Bible a la réponse pour moi, il n'y a pas de souci. Et Judas se pendit. Ah, donc je dois me pendre. Il se pend. La corde casse. Donc il reprend sa Bible. Repends-toi, mince. Une histoire idiote, mais qui nous montre qu'il ne faut pas utiliser la Bible n'importe comment. Hein? Du coup, il faut quand même la connaître un petit peu. Il faut réfléchir un petit peu. Donc, 1 Corinthiens, verset 11 aussi, on va retrouver un peu la même chose. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple. Donc, si mon ennemi, mon voisin est insupportable, je ne vais pas lui foncer dessus en disant « je suis David ». Et lui, c'est Goliath, je lui coupe la tête. Non, non, ces choses vous ont été écrites à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. À titre d'exemple. Et pour nous avertir. Hein, donc il faut aussi faire attention. Qu'est-ce qu'on lit, comment on le lit. Ça demande un peu de réflexion. Et je pense que c'est volontaire de la part de Dieu. Parce qu'il est convaincu, puisqu'il nous a créés, qu'on a un cerveau et que ce cerveau doit fonctionner. Condition qu'il fonctionne correctement. Pas contre la parole de Dieu, mais pour. Et il veut nous faire travailler. Il veut nous faire collaborer. Et il ne veut pas faire de nous des marionnettes On tire une ficelle, on tire l'autre ficelle et non. Il faut qu'on collabore. Il nous a créés comme des êtres intelligents et notre intelligence doit être soumise à la parole de Dieu, certes, mais elle doit fonctionner. Donc si je suis en train de lire un psaume de David qui dit « Écrase mes ennemis sur le rocher », voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Voilà, il faut aussi réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on lit. Alors, comment est-ce qu'en lisant ma Bible tous les jours, je vais réussir à trouver le message de Dieu pour ma vie, aujourd'hui ? Ce sont des vieux textes, des histoires qui ont entre 2000 et 4000 ans pour nous. C'est quand même quelque chose. Alors, ce que j'ai eu à cœur, je ne m'y attendais pas forcément, c'était de vous proposer ce matin une méthode simple. Il y en a qui la connaissent déjà, mais moi, c'est celle que je pratique, donc c'est important que vous puissiez en profiter. Je pensais, je ne l'avais jamais expliqué, donc on va en profiter. Et ce que je vous demanderai après, c'est que dans les groupes de maison, vous appliquiez la méthode sur le chapitre 23 de 1 Samuel. Mais on va en parler après. Voilà. Et vous allez me donner les remontées et mon message sera fait. Presque. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est déjà que vous le fassiez seul, en famille, avec vos enfants ou dans les groupes de maison. Vous n'êtes pas obligé de le faire que dans les groupes de maison. Vous pouvez le faire seul aussi. Et je vous demanderai de préparer le prochain message, donc, qui aura lieu dans un mois. Je me dis, Seigneur, pourquoi il y a un mois d'écart? Eh bien, voilà, vous avez un mois pour travailler 1 Samuel 23, chapitre 23. Première étape quand j'aborde 1 Samuel chapitre 23. Lire le texte. Jusqu'ici, tout va bien. Cette première étape s'appelle observation. Lire le texte, pas trop vite. Et si possible, à voix haute. Enfin, il y a des gens que ça aide. Moi, ça m'aide. Maintenant, voilà. Parce que parfois, à voix haute, on met le ton et il y a des choses qui ressortent, qui ne ressortiraient pas. Donc, quand je relis les traductions, je les lis toujours à voix haute. Parce que c'est là qu'on sent les choses qui vont marquer, etc. Qui vont sembler bizarres aussi. Alors, première étape, vous lisez le texte, si possible, à voix haute. Deuxième étape, vous allez vous poser des questions. Et voilà les questions. Où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi? Dans l'ordre que vous préférez. Moi, c'est mon ordre préféré, mais chacun... Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je ne peux pas répondre à toutes ces questions? Ah! Eh bien, vous savez, il existe une petite chose qui est très précieuse, que moi, j'utilise beaucoup, c'est le dictionnaire biblique. Parce que quand... Qui est dans le texte, il n'y a pas de souci, c'est écrit. Mais quand ça s'est passé, ça devient compliqué. Donc, le dictionnaire biblique est là. Alors, pourquoi... Voilà. On va déjà commencer avec le « où ». Alors, évidemment, vous, si on vous dit... je ne sais pas, enfin... Moi, en tout cas, si on me dit « Hébron », chaque fois, je suis obligée de regarder où c'est sur la carte. Je n'ai pas une mémoire extraordinaire des lieux géographiques, donc chaque fois, je suis obligée de prendre le dictionnaire biblique, de regarder où ça se situe. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir où mon histoire a eu lieu? Ah ben si, parfois c'est... Alors parfois non, mais parfois c'est très très important. Parce que le lieu peut être chargé de sens. Si c'est une montagne, si c'est une vallée fertile, si c'est une ville active, comme Capernaum pour Jésus par exemple, si c'est un jardin, ça vous dit quelque chose un jardin? Avec Jésus. Si c'est une vigne, si c'est un lieu historique, comme le puits de Jacob, ça a une importance dans le texte. Vous savez, la Bible, elle résume beaucoup de choses. Et parfois, un lieu va être chargé de sens, va pouvoir vous apporter des tas d'éléments. Parce que pour les gens de l'époque, c'était clair. Quand la Samaritaine s'est trouvée à côté du puits de Jacob, il y avait tout un sens derrière. Et ça vaut le coup de prendre dans ces cas-là le dictionnaire biblique et de dire, de regarder Jacob, puits de Jacob. Et là, il y a des choses qui vont sortir. Par exemple, pour vous donner un exemple, hier, en préparant donc, un petit peu le chapitre 23, même si on n'a pas le temps de le faire ce matin, je regardais Abiathar. Et je m'aperçois qu'Abiathar qui apparaît dans l'histoire, d'ailleurs vous pourrez le faire pour vous-même, Abiathar se trouve être un descendant des enfants d'Élie qui avaient vraiment mal agi et sur lesquels pesait une énorme malédiction. Et quand on s'aperçoit que tous ont été tués, les prêtres, il y a seulement Abiathar qui s'est sauvé, tous les prêtres de Nob ont été tués, on se dit « Oh, quelle horreur, Saül a tué tous les prêtres de Nob !» Et il se trouvait qu'ils étaient tous des descendants d'Élie sur qui pesait cette malédiction. Donc il y a des choses qui s'expliquent. Et Abiathar, plus tard, va être mis de côté aussi, va être tué, et il sera remplacé par Sadoc. Voilà. Donc, hein? Ah, je parle pas d'Élie, je parle d'Élie de Samuel. Hein? Je parle d'Élie de Samuel, mais je suis dans mon histoire. Moi. Sans eux, voilà. Non, c'est pas la maison d'Élie. Donc, alors voilà pour le où. Donc, c'est important de savoir où la chose se passe. Surtout si c'est une bataille. Par exemple, dans cette bataille où Dieu est intervenu par des pluies torrentielles, tous les chariots des ennemis se sont embourbés. Si vous regardez dans le dictionnaire biblique, vous allez voir que la même chose est arrivée avec Napoléon au même lieu. Enfin, on apprend des choses. Et que finalement, c'était un lieu où de temps en temps, il y a des flash floods, des inondations brutales comme ça. Et que Dieu savait pourquoi il envoyait ces gens à cet endroit. Voilà. Donc, on apprend des choses. Quand ? Alors, le quand ? C'est important, et je vous conseille de regarder sur une frise historique, vous savez, ces trucs-là, en longueur, qui vous montrent à peu près où c'est par rapport à nous, et par rapport à Jésus, surtout. C'est très, très important. D'abord, est-ce que c'est avant ou après Jésus, Ancien Testament, Nouveau Testament ? Est-ce que c'est avant ou après la loi de Moïse ? Parce que ça change quand même pas mal de choses dans les explications. Est-ce que c'est pendant un temps de guerre, un temps de déportation, un temps de fuite ? Est-ce que c'est un événement tout à fait particulier dans la vie du personnage ou c'est sa routine ? Est-ce que c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament ? L'âge de la personne aussi peut compter. Par exemple, quand on étudie les textes de Jésus, c'est important de savoir si on se rapproche de sa crucifixion parce que ça prend un sens différent. Quand il dit par exemple à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, etc. Marie a choisi la bonne part, il n'était pas loin de sa crucifixion. Donc, Marie avait bien raison de profiter des dernières heures avec Jésus. Vous voyez, ça rend des renseignements passionnants. Qui ? Ah, personnage central, ça c'est facile, vous avez le nom en général. Et les autres qui entourent, c'est important de savoir qui c'est. Alors, bon, moi c'est comme ça qu'en général, quand j'ai vu le nom Abiathar, ben, j'ai cherché, parce que ça ne me disait rien sur le coup. Voilà. Par exemple, vous mettez sur votre papier de qui il s'agit. Alors, Jésus, un malade et les pharisiens. Ça fait un mauvais mélange, ça. Ou bien c'est Moïse et le peuple. Ou bien c'est Gédéon, son armée, le camp ennemi. Vous avez déjà qui sont les personnages. Par exemple, Gédéon rempli de foi ou bien mort de trouille. Enfin bon, vous n'utiliserez peut-être pas ce mot-là. Voilà. Donc, vous mettez quelques petits mots comme ça et vous voyez bien qui sont les personnages. Quoi ? Alors quoi ? Ben on résume ce qui se passe. Jésus guérit un malade dans le temple, le jour du sabbat par exemple. Gédéon part à la bataille avec des torches et des cruches. Voilà. Vous pouvez résumer rapidement le quoi. Ensuite, comment ? Ah, là c'est plus compliqué. Eh bien le comment, si vous faites des remarques sur la lenteur ou la rapidité, les obstacles, la douceur ou la colère, hein, quand Jésus chasse les marchands du temple, comment il les chasse ? En colère avec un fouet. Ça dit pas mal de choses. Les gestes, les rites et surtout l'état d'esprit. Parce que pour Dieu, c'est ce qui compte beaucoup. C'est notre état d'esprit, nos motivations. Ça, c'est le comment. Pourquoi ? Ah, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que chercher la cause d'une action, ça demande de connaître un petit peu l'histoire. Pourquoi les gens ont fait ça ? Par exemple, pourquoi Jésus a chassé les marchands du temple ? C'est une bonne question à laquelle il faut répondre. Pourquoi ? Il aurait pu les laisser faire. Ça faisait un bout qu'ils étaient là. Hein ? Pourquoi il les a chassés ? Bah, vous cherchez. Parfois, c'est demandé par Dieu. Parfois, c'était le temps de Dieu. Parfois, c'est bah, la personne veut faire ce qu'elle veut et pas ce que Dieu veut. Par exemple, Jonas. Vous écrivez, bah, Jonas ne veut pas aller à Ninive parce que il a peur. Et c'est compréhensible. Voilà. Alors, une autre chose à observer dans votre texte, c'est les répétitions. Oh, dans la Bible, les répétitions. C'est terrible. Elles disent beaucoup de choses. Quand vous avez un mot qui revient, par exemple, je crois qu'on avait fait l'année dernière, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Waouh, mais c'était son Dieu aussi à lui. Ça veut dire quelque chose, hein ? Quand il n'arrête pas de dire ton Dieu au lieu de dire notre Dieu. Les questions sont importantes parce que vous savez que pour les juifs, un enfant intelligent est un enfant qui pose des questions, vous le savez. La question, c'est important pour les juifs. Et pour les écrivains de la parole de Dieu, s'il y a des questions, ça dit beaucoup de choses. Et il faut bien faire attention aux questions. Les mises en garde, les comparaisons, oh là là, les exagérations aussi. Oh mais je pouvais rien faire, le peuple voulait quoi, oh, le peuple. Hein, Saül, il en utilise des exagérations. Les contradictions aussi. Ça, tout ça, ça parle sur le caractère du personnage. S'il passe son temps à exagérer et à se contredire, il n'est pas clair, il est visiblement en train de mentir. Il est en train de se justifier. Voilà, des petites choses. Vous voyez que ce n'est pas trop compliqué. Ça, c'est l'observation de votre texte. Une fois que vous avez bien travaillé sur l'observation de votre texte, l'étape numéro 2, c'est l'interprétation. Alors attention, ce n'est pas pareil que l'application. L'interprétation, c'est la partie délicate parce qu'il faut être très fidèle au texte. Très, très fidèle au texte. Alors d'abord, on essaie de bien comprendre tous les mots. N'hésitez pas à prendre un dictionnaire. C'est important. Parce qu'il faut reconnaître, hein, moi j'ai toujours le dictionnaire sous la main, parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas toujours très bien ou on ne voit pas toutes les nuances. Donc ça peut être important. Il y a aussi des mots spécialisés comme le sabbat. Alors bien sûr, on sait tous, c'est le jour de repos pour les juifs. Mais parfois, ça vaut le coup de prendre un dictionnaire biblique et de relire la définition du mot sabbat. Parce que ça va nous apporter un éclairage. Jour de repos très respecté par les pharisiens. Ah, ah. Ou bien les noms des sacrifices aussi. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout, mais moi, à chaque fois, je suis obligée de regarder le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de l'Holocauste. Donc, à chaque fois, je vérifie dans le dictionnaire parce que j'oublie. Ensuite, le sens de certains mots, comme au chapitre 23, vous allez avoir le mot R, A-I-R-E. Bon, on ne sait pas toujours tout ce que c'est parce qu'il y a longtemps qu'on ne fait plus la moisson à la main. Et on n'a pas tous eu des grands-parents dans l'agriculture. Donc l'air, c'est l'endroit où on bat le blé. C'était un endroit en hauteur où le blé était tapé avec des bâtons et puis la balle, c'est-à-dire toute la paille, s'envolait. Parce que c'était un endroit bien venté en hauteur et après on récoltait les grains. C'est pas compliqué. Mais voilà, nous on a perdu le contact avec la civilisation agricole, donc de cette époque en tout cas. Donc il ne faut pas hésiter à regarder, parce que là, vous allez comprendre un endroit en hauteur, exposé, donc facile à voir, donc facile de venir voler le grain pour les Philistins. Et les Philistins, en général, cherchaient les aires de battage, parce que c'est là qu'il était le grain. Et on le stockait, et avant d'aller le porter dans les maisons, etc., il était stocké là. Donc il repérait la moisson, il se tenait prêt. Et le soir du battage, il y a les chevaux des Philistins qui arrivaient. Et ils prenaient les sacs de grains. Voilà. Donc si vous comprenez ça, vous voyez comment le danger était permanent pendant les périodes de moisson. Voilà. L'éphode, vous allez avoir ça dans le chapitre 23. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un éphode? À chaque fois, moi je regarde parce qu'à chaque fois j'oublie. Alors à chaque fois, je prends mon dictionnaire biblique. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais c'est ce qui contenait normalement l'Ourim et le Toumim qui permettaient de poser des questions à Dieu. David, très vite, a préféré que ce soit l'Arche de l'Alliance qui soit au centre plutôt que l'éphode. Mais voilà, c'était les prêtres qui avaient l'éphode et c'était une façon de consulter Dieu qui a été abandonnée après, plus tard, qui n'existait plus au temps des pharisiens, au temps de Jésus. Voilà. Après, dans l'interprétation, il faut essayer de comprendre les façons d'agir des gens. Par exemple, la façon d'agir de David et ses réactions. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, David? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand il est, on a fait ce passage hein, la dernière fois avec Simon Polyte, pourquoi est-ce qu'il se contente de couper le morceau de la tunique de Saül? Ça vaut le coup de réfléchir. Est-ce que moi, si j'étais à la place de David, j'aurais fait ça? Pourquoi est-ce qu'il résiste à ces hommes qui lui disent « Dieu te le livre, tue-le, allez David, vas-y, vas-y, t'as tué Goliath, il dort là, t'as juste à lui sauter dessus. » Pourquoi David a résisté? Ça, et ça demande une interprétation. La crainte de Dieu, le respect pour l'onction royale, tout ça, vous allez le trouver en réfléchissant. Et expliquer la façon d'agir de Saül, qui pleure, oh David, mon fils, je reconnais que tu es bon envers moi et moi, j'arrête pas de te poursuivre. Puis deux jours après, il recommence. Expliquer. Voilà, la réaction aussi de la ville. Vous allez la voir dans le chapitre 23. Comment cette ville qui vient d'être délivrée par David Elle est prête à le livrer à Saül. Ça vaut le coup de réfléchir à ça. Comment j'interprète ça? Manque de reconnaissance? Une trouille terrible des troupes de Saül? Ça demande. On ne peut pas répondre avec absolu hein, dans ces cas-là, mais quand même, ça vaut le coup de réfléchir. Et du coup, le texte, il devient intéressant. Bon, par exemple, vous allez avoir le problème de Gédéon quand il pose des toisons. Oh, c'est un moyen de consulter Dieu, etc. Ou est-ce que je dois, si je reste bien fidèle à mon texte? Il avait très peu d'hommes, il voulait être sûr que Dieu allait l'aider, il veut juste une confirmation. Mais je pourrais interpréter de travers en disant « Ah, oh, ben voilà ce que Dieu nous demande, chaque fois qu'il nous dit quelque chose, on pose des toisons, on lui demande des confirmations à tire-larigot, etc. » Donc attention, on reste bien fidèle au texte. Pourquoi il l'a fait? C'était des circonstances très particulières. Ce n'est pas une astuce religieuse. La vie des gens était en jeu, et la gloire de Dieu aussi. Donc moi, je ne vais pas poser des toisons à la gomme pour des trucs... Est-ce que je dois aller faire mes courses ou pas, ou des trucs comme ça. Hein. Donc voilà, donc, c'est ça dans le respect du texte. Hein. L'interprétation doit toujours se faire dans le respect du texte, parce que la Bible n'est pas un livre normal. Il faut respecter ce texte. Étape numéro 3. Alors là, c'est celle en général où on va tout de suite. Et justement, c'est celle où moi, je vous demande, et je m'efforce aussi, difficilement, de le faire en dernier. J'applique à ma vie. Ce que j'ai appris, ce que j'ai observé, ce que j'ai interprété au mieux avec dictionnaire biblique, avec toutes sortes de données. Maintenant, je vais voir comment je peux l'appliquer à ma vie. Là seulement, je vais appliquer le texte à ma vie personnelle aujourd'hui. D'abord, je vais regarder si j'ai des points de similitude avec les personnages. Et là, il n'y a pas de souci, on en a. Est-ce que je suis aussi impatiente? Est-ce que moi aussi je voudrais que les choses se fassent comme ça? Est-ce que j'ai envie de faire les choses à ma manière? Voilà. Est-ce que moi aussi je suis comme le personnage? Par exemple, là, dans le chapitre 23, vous aurez cette question. Est-ce que parfois je suis pas comme cette ville de Kéla? Hein? Qui, quelqu'un m'a béni, etc. Mais... Non, je ne vais pas manifester ma reconnaissance, au contraire. Ou est-ce que ça m'arrive parfois que des gens m'ont fait du bien et puis je leur ai tiré dans le dos ou voilà. Ça vaut le coup de se poser la question. Donc vous pourrez vous la poser. Et effectivement, qu'est-ce que j'ai en commun avec l'histoire du chapitre 23? Les points de similitude avec les personnages. Je me pose des questions. Est-ce que j'aurais fait moi la même chose? Oh non, la première réponse c'est non, évidemment. Oh, les vilains. Est-ce que moi aussi, ça m'arrive d'être dans des circonstances similaires? Par exemple, David, dans cette histoire, vous allez voir, il consulte Dieu une première fois. Puis les gens lui disent, non, tu vas pas aller défendre la ville de Kila, on n'est pas assez nombreux, blablabla. David reconsulte Dieu. Et Dieu lui dit, oui, vas-y, à chaque fois, Dieu lui dit, oui, vas-y. Et là, il ne tergiverse pas, peu importe ce que disent sa troupe, Dieu a dit oui deux fois. Terminé. Alors, est-ce que j'ai la sagesse de reconsulter Dieu si quelqu'un m'a découragé? Est-ce que je reste sur la vie des gens autour de moi? Ou est-ce que j'ai la sagesse de reconsulter Dieu, de prier? Est-ce que j'ai pas plutôt tendance à faire comme la dernière fois, par exemple? Ça, moi, c'est un truc qui me choque chez David. Même lieu, mêmes ennemis, il consulte Dieu une première fois. Quelques temps après, même lieu, mêmes ennemis, il reconsulte Dieu. Ben non, ce n'était pas nécessaire. Moi, j'aurais fait la même chose que la dernière fois. Ce qui a marché la dernière fois doit marcher cette fois-ci. C'est logique. Eh bien, David, lui, va reconsulter Dieu. Et Dieu lui donne un avis complètement différent. Une fois, il lui dit « Attaque, tu auras la victoire ». La deuxième fois, il dit « Attends le bruit des pas derrière le mûrier », etc. Aïe, 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 est-ce que moi, je suis capable de faire ça? De dire « Mais la dernière fois, j'ai fait ça et ça a marché. Plouf, je refais la même chose ». Non, il reconsulte Dieu. Voilà. Et puis, on peut se poser la question avec le chapitre 23. Est-ce que j'ai consulté le Seigneur avant d'entamer telle ou telle chose? Et qu'est-ce que je fais s'il y a des gens qui me dissuadent? Est-ce que je les écoute? Alors, parfois, le Seigneur va vous dire oui, écoutez-les. Et parfois, le Seigneur dira non, j'ai dit ça. Donc, c'est vachement compliqué, la vie chrétienne, parfois. Qu'est-ce que je vais écouter? Il y a un temps pour attaquer, il y a un temps pour fuir. C'est important de consulter Dieu. Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu ou est-ce que je reproduis simplement ce qui a marché? Alors prenez un papier si vous êtes tout seul. Et même en groupe, c'est sympa. Il y a certaines choses qui vont vous sauter aux yeux quand vous allez relire l'observation et l'interprétation. Et là, vous allez pouvoir vous identifier et chercher quel est le message de Dieu pour moi dans ce texte. Par exemple, pour moi, dans ce texte de David, il y avait deux ou trois messages importants. On les verra après. Non, je ne vais pas vous les dire, vous allez les chercher. Évitez surtout les interprétations dangereuses et fantaisistes du style Judas se pendit. Faites attention, on ne prend pas un texte et puis pouf, comme ça. On regarde le contexte, on réfléchit. Et vous savez, c'est ça quand il dit méditer. Je médite ta parole. On se pose parfois la question et on dit la méditation transcendantale, ce genre de bazar. Mais non, méditer la parole, c'est faire ce que font les vaches. Les vaches, elles cueillent l'herbe. Ça rentre et ça revient plus tard, c'est un peu dégoûtant, d'accord? Ça revient un petit peu dans la bouche et là, vous les voyez, pendant des heures. Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est un peu ça. Vous lisez, vous absorbez, ça passe dans votre système, observation, interprétation, et après, ça revient dans la bouche et là, vous pouvez l'appliquer à votre vie. Et ça demande une méditation, ça demande une réflexion. Soyons des bonnes vaches, voilà. C'est pas beau quand même. Voilà. Quelle conclusion épouvantable. Alors maintenant, vous pouvez avoir un texte.
C'est pour toi.
Non, c'est pour... J'avais vu, merci. Je te le mettrai à toi aussi. Hein. Ah. Ok. C'est un beau rond là, avec le temps qui passe. Il reste encore du vert. Bon, le reste est rouge. Ah là 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 là. Tu m'as perdu dans mes... Nous sommes des bonnes vaches, voilà. Alors, que faire avec un texte trop difficile? Alors là, bon, ça va aller. Vous allez voir le chapitre 23, ça va bien se passer. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez un texte trop difficile? Alors, la première chose que je vous conseille, laissez passer. Parce que si vraiment vous pigez rien, c'est peut-être pas le moment de le lire, et vous pigerez peut-être quelque chose un autre jour. Vous savez, il y a des textes de la Bible qui m'ont rien dit pendant des années. Puis le jour où j'en ai eu besoin, ben j'ai bien compris. Parce que Dieu ouvre l'esprit aussi. Hein. Et parfois, il va pas faire cet effort parce que c'est pas le moment. On n'a pas besoin de ce texte. Il est trop compliqué, il répond pas à nos besoins. Vous inquiétez pas, vous passez. Si vraiment vous y tenez, ben vous priez. « Seigneur, si vraiment il y a un message pour moi dans ce texte que je comprends pas, veuille me le donner, mais bon. » Si c'est trop difficile, on creuse avec un commentaire. N'ayez pas peur. Il y a des commentaires très bons. Et n'ayez pas peur de lire un commentaire et de voir si ça vous éclaire un petit peu. On peut questionner le pasteur aussi. Et puis, il y a une option que j'ai faite cette semaine. Et justement, c'est de ça que je voulais vous parler. On profite des théologiens de passage. On a la chance d'avoir vos sur scène à côté de nous et d'avoir d'excellents théologiens. Et cette semaine, à la réunion donc de Inter-Église, on avait M. Nicole qui était là, professeur d'Ancien Testament. Et j'avais une question à lui poser. Et je me suis dit, oh, tant pis, est-ce que j'y vais pas. Les gens n'étaient pas encore arrivés. Oh, je ne sais pas comment il va prendre la chose, mais Blocher n'a jamais rien dit quand j'ai fait ça. Donc, je dis peut-être que lui, il sera comme Blocher, il ne dira rien. J'ai dit, Monsieur Nicole, je suis désolée, mais voilà, je dois parler de Saül. Et j'ai une question sur Saül qui m'embête. Et très gracieusement, il m'a répondu. Alors, ce qui est le plus incroyable dans cet échange, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais au-delà de sa réponse, ça a été son attitude. Et vous savez, quand la Bible dit qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde, etc., ça me parle beaucoup parce que ce n'est pas seulement sa réponse qui m'a plu, c'est l'esprit dans lequel il l'a donné. Et c'est très difficile à expliquer. En l'écoutant expliquer sa réponse, je sentais vraiment qu'il était en accord avec l'esprit de Dieu et que ça... Moi, ça m'a changé d'attitude envers le personnage, envers le texte. Parce que j'étais un petit peu dans une attitude, oh oui, bon, là, on arrive au bout de la vie de Saül. Hein. Commence à nous pomper, là, Saül. Hein. Bon, il accumule les bêtises, il s'enfonce alors que Dieu passe son temps à essayer de le sortir d'affaire. Bon, vous voyez, le genre d'attitude que j'avais. Et je ne sais pas s'il l'a senti, en tout cas, il était très... J'ai rempli de l'Esprit de Dieu en me disant, Saül, c'est quand même un personnage problématique. Il est très complexe. C'est pas tout en noir et blanc. Il y a un côté victime chez Saül. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, ouais, quand même, n'exagérons rien. Il dit, mais si. L'histoire de Saül, c'est vraiment l'histoire aussi de la patience de Dieu, de la possibilité d'une récupération, de l'amour de Dieu, malgré ce qu'est l'homme. Ça décrit très bien l'homme dans toute sa fragilité, dans toute sa capacité à tomber. Et ça, on le partage avec Saül. Et là, je ne sais pas ce qui s'est fait dans mon cœur, mais wow, il a vraiment le point de vue de Dieu. Cet esprit de Dieu que vous sentez et qui arrive à nous changer. Il n'a pas essayé de me faire changer d'avis du tout. Il a simplement exprimé ce qu'il ressentait. Et il connaît la parole de Dieu sur le bout des doigts. L'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils lisent la Bible dans l'hébreu. Voilà, c'est quand même... Les différents sens, hein, font quand même, c'est précieux. Et cet amour, cette sensibilité au texte, le respect de la parole de Dieu, ça c'était fantastique, le respect de la parole de Dieu. Tout ça s'est exprimé dans sa façon de parler, et je ressentais vraiment la présence du Saint-Esprit dans ses paroles, et ça m'a fait du bien. Et j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant, c'est que je me suis dit, waouh, c'est pas forcément nos paroles et les réponses qui sont les plus importantes, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on les donne. Et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire comme progrès ? C'est vraiment l'état d'esprit qui compte, plus que la réponse. En fait, il ne m'a pas vraiment donné de réponse, parce qu'il m'a dit, vous savez, c'était à propos de la consultation de Saül, pour ceux qui connaissent le texte, la consultation de la sorcière. Là. Il m'a dit, on n'a pas de réponse. Mais est-ce que c'est vraiment une réponse que le Seigneur veut qu'on ait ? Ou est-ce qu'il a un autre message pour nous ? Et que ce message, c'est plutôt que quand on désobéit, les choses étaient claires, Saül a désobéi, les fruits, ça a été son suicide à la fin. Est-ce que c'est Samuel qui est remonté ? Est-ce que c'est pas... Dieu ne nous donne pas de réponse. Donc, il faut peut-être s'arrêter là. Cette humilité, cet homme qui sait tout à mes yeux, hein, ce grand théologien, cette humilité de dire devant le texte, Dieu ne nous donne pas de réponse claire. Donc, il faut mieux peut-être pas entrer là-dedans. S'il dit rien, c'est qu'on n'a rien à savoir. Et il faut l'accepter. Bon, très bien. Voyez, l'état d'esprit, enfin, j'essaie de vous le rendre comme je peux, mais ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, ma fille, essaie d'avoir la même humilité devant le texte. Essaye. Parce que c'est trop beau. Et c'est ça qui peut changer les cœurs. C'est pas, je sais tout, je vais tout vous dire. Ça vous changera pas. Mais je pense, voilà. Ça, moi, ça m'a changé et ça m'a fait du bien. J'espère vous avoir expliqué au mieux. Ce n'est pas forcément évident à expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était très fort, très très fort. Ceci étant, il doit avoir ses défauts, mais je ne le connais pas très bien, donc je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas un homme parfait, j'imagine. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Des gens remplis du Saint-Esprit, en fait, ils débordent sur vous. Voilà, c'est ça que je trouve merveilleux. Voilà. Alors... Ce que je vous demanderais donc, c'est d'appliquer cette méthode-là. Si vous pouvez le faire tout seul, en famille, ce serait bien que vous fassiez avec vos grands-enfants. Enfin, à partir de 8 ans, hein, ils peuvent le faire sans problème. Et alors, en plus, je vous signale pour les enfants, c'est une méthode qui fonctionne à l'université. Donc, s'ils s'y habituent aujourd'hui, ils n'auront pas de mal avec la méthode structurale à l'université. Donc, profitez-en. Ça aide énormément. Donc, essayez de l'appliquer. Là, je l'ai un peu simplifié, mais je pense que voilà, si les enfants font ça à la maison avec vous, ça va leur rendre de grands services. Quand ils vont faire des études de textes littéraires, observation, interprétation, application, évidemment, les textes littéraires, il n'y a pas beaucoup d'applications, quoique. Mais voilà, c'est une bonne habitude à prendre. Et après, vous allez prendre goût aussi. Parce que vous savez, quand on découvre quelque chose de nouveau dans la Bible... Ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça, mais j'avais lu ce texte 36 fois, mais c'est génial. Voilà, vous allez avoir, j'espère que vous allez avoir ce plaisir. Et puis, ce que je vous demanderai, c'est d'ici un mois, vous avez un mois pour faire vos devoirs, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit résumé de ce que vous avez fait. C'est pas une obligation. Mais ceux qui veulent, et j'aimerais bien que les ados le fassent.
Pour eux, ça va être une obligation.
Voilà. J'aimerais bien, parce que après, je vais réunir tout ça et je vais vous dire tout ce que j'ai découvert dans votre étude. Et je suis sûre que je vais découvrir des tas de choses. Parce que c'est ça aussi qui n'est pas normal dans la Bible. c'est qu'il va parler à chacun différemment. Et on va faire l'exercice ensemble et vous allez voir, c'est choquant. Comment je vais découvrir tout le monde. Comment il a vu ça, lui, là? C'est incroyable. Nathanaël, il a trouvé ça. Parce que tu vas le faire, Nathanaël. Voilà. Et après, notre premier message sur la famille, on fera ça, le chapitre 23, ensemble. Alors, pour arriver au chapitre 23, un rapide résumé, il reste encore un petit peu de verre. Donc, quand 1000 ans avant Jésus-Christ, vous vous souvenez, on est 1000 ans avant Jésus-Christ. Rappelez-vous de ça, c'est toujours pratique quand on lit l'histoire de David, en gros, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, donc vous vous souvenez, tous les ans, moi je fais la frise, Adam et Ève, l'histoire de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, fils de Jacob, 400 ans en Égypte, Moïse, sort d'Égypte, Josué, conquête de Canaan, juge, les premiers qui dirigent le peuple, le dernier étant Samuel, dernier juge. Donc on arrive au livre de Samuel, très rapidement, 8 chapitres parlent de Samuel. On les a déjà fait, donc la deuxième année. C'est un personnage hors du commun, ça c'est clair. Naissance miraculeuse, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Nazir, c'est-à-dire mis à part dès sa jeunesse pour servir Dieu. Un personnage très particulier. Il va être serviteur de Dieu après Élie, le prêtre, Élie, donc, dont les enfants se comportaient très mal, mais lui était un homme correct. Il va être prêtre et porter ce fameux éphod. Il veille sur l'Arche d'Alliance, c'est lui qui garde en quelque sorte l'Arche d'Alliance dans le temple. Ça va être le dernier des grands juges, prophètes, on dit aussi parfois voyants à cette époque, ne pas confondre avec nos voyantes. Porte-parole, en gros ça veut dire porte-parole du Seigneur. Et c'est lui qui va oindre les deux premiers rois d'Israël. Un enfant qui n'aurait jamais dû naître, la grandeur de Dieu. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc c'est fantastique ce que Dieu fait. Quand il veut quelque chose, il ne s'occupe pas de la biologie. Il avait décidé, ça s'est réalisé. Ceci étant, Samuel aurait pu désobéir, mais il ne l'a pas fait. La vie spirituelle d'Israël à cette époque est très pauvre. Vous vous souvenez, le fétichisme, on emmène l'Arche de l'Alliance au milieu de la bataille pour être sûr de gagner. Ils ont perdu, évidemment, parce que ce n'est pas les rites qui nous sauvent, c'est Dieu. Voilà ce qu'il advient de la religion quand le rite passe au-dessus de la foi vivante. On emmène l'Arche d'Alliance, bah oui, mais c'est pas magique. Il n'y a rien de magique avec Dieu. C'est ça qui est incroyable. C'est pas parce que je vais porter ma Bible dans mon sac à main que je vais être bénie. Il n'y a rien de magique. Lors de la guerre, Israël va utiliser l'Arche car il se croit abandonné de Dieu. Il va forcer Dieu à les aider. Et on ne force pas Dieu à quoi que ce soit. On dit toujours, on ne peut pas tordre le bras de Dieu. Quand Dieu vous dit non, n'essayez pas, vous perdrez votre temps, de lui tordre le bras. Essayez de lui demander plutôt pourquoi il a dit non. Parfois, il le dit. On voit aussi l'arche qui a la supériorité sur les dieux étrangers, je l'ai dit tout à l'heure. Il dépose l'arche dans un local, dans le temple de Dagon, et à chaque fois, Dagon, on le retrouve en morceaux par terre. La statue, donc. Ensuite, il est déposé en attente dans une zone neutre, et c'est David, très symbolique aussi, ça. Hein, là, il y a un sens dans l'interprétation, qui va ramener l'arche à Jérusalem quand il va être roi. Pas tout de suite encore. Pourquoi est-ce qu'on est passé de juge au roi? Vous vous souvenez, le facteur déclenchant, c'était le péril philistin. Historiquement, maintenant, on sait qu'ils ont existé, etc. Il appartient au peuple de la mer. Et curieusement, il correspondrait un petit peu aujourd'hui au peuple qu'on appelle aujourd'hui palestinien, qui cherche à habiter sur la côte. C'est ce que disent tous les commentaires. Et il aurait la volonté, il y avait la volonté chez les Israélites d'être comme les autres peuples. Les Philistins avaient des rois. Ils avaient des cités-états le long de la côte, dont Gaza en était une d'ailleurs, historiquement, hein. Et Asdod, etc. Je connais pas, il y en a les cinq. Et ils sont déjà à l'âge du fer. Alors que, donc, ils étaient en avance, c'est ce qui a pénalisé énormément Israël, parce qu'eux, ils avaient des armes en bronze, c'était beaucoup moins efficace que les armes en fer qu'avaient les Philistins. Donc, péril philistin énorme, en plus, ils possèdent un peu la côte. Ils pensaient à un roi parce qu'il aurait eu un dispositif de défense, il pourrait assurer la sécurité aux frontières, parce que régulièrement les Philistins faisaient des razzias, comme je vous ai dit, pour voler les récoltes. Le deuxième facteur déclenchant, c'était la vénalité des fils de Samuel. Hélas, le pauvre Samuel, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu beaucoup plus de chance qu'Élie. Ils étaient moins pires que les enfants d'Élie, mais bon, c'était pas génial. Apparemment, ils acceptaient les cadeaux, les pots de vin et autres. Donc, ils disent, écoute, tes fils t'ont pas suivi, on voudrait un véritable roi. Vous vous souvenez de cette période? Samuel est dépité, il croit qu'il est rejeté en tant que personne, mais Dieu lui dit, mais non, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. C'est pire. Et il va donc décrire les droits du roi, il va demander un quitus, dire au peuple, voilà, moi j'ai rien pris à personne, etc. Et le peuple qui reconnaît, oui, tu as été un bon juge, un bon prophète, il n'y a pas de souci, mais on veut un roi. Et c'est lui qui va décrire le roi, il va établir les lois. C'est intéressant parce que les archéologues ont comparé ça au roi des environs. Et donc la comparaison est intéressante, je ne peux pas rentrer là-dedans. Et le premier va être Saül, en hébreu Shaoul, qui veut dire « demander ». Je ne savais pas, j'ai découvert ça, d'où l'utilité des dictionnaires bibliques. Le prince demandé. L'accent est mis sur la force de l'Esprit de Dieu sur Saül, et ça on le voit à diverses reprises. Même, il va aller jusqu'à prophétiser. Enfin, c'est Dieu lui donne tout pour réussir. L'Esprit de Dieu est sur lui, il va être un excellent militaire, un excellent stratège. Il vient d'une bonne famille, aisée, de Benjamite, le plus jeune hein, des enfants de Jacob, donc la plus petite tribu. Sa première grande victoire militaire va avoir lieu à Yabesh. Une victoire éclatante, un excellent stratège, il va prendre la ville en tenaille, enfin, extrêmement, extrêmement bon. Ceci étant, il se laisse totalement guider par l'Esprit de Dieu pour cette bataille. Et ça, c'est fantastique. On voit de quoi il est capable quand il est entièrement soumis à Dieu, le rêve. Il va rester un bon militaire. Ammon, Moab, Édom, Amalek et les Philistins vont être tenus en respect pendant son règne. Par contre, ça va être un personnage assez tragique parce que à deux reprises, il va gravement désobéir à Dieu et il va perdre et le soutien de Dieu et le soutien de Samuel, évidemment. Il va même en arriver à être jaloux de son propre fils, Jonathan, qui était un homme de Dieu. Puis David va rentrer en scène, vous vous souvenez, d'abord en tant que musicien, pour soulager Saül quand il a ses crises de déprime. Secrètement, il va recevoir l'onction royale à Bethléem, mais secrètement dans sa famille. Puis on le revoit après dans la victoire sur Goliath. Je ne vous raconte pas, vous connaissez. Saül choisit des hommes vaillants. Et donc, il va faire partie de ces hommes vaillants qui vont se battre. David, vous savez que ça veut dire bien-aimé de Dieu, homme selon le cœur de Dieu. Saül va gaspiller toute son énergie et ses forces à imaginer des moyens d'éliminer David. Voilà. Donc, c'est là qu'on en est. Je termine. Au chapitre 23, on est dans cette période où Saül a compris que David va régner à sa place et ne veut pas. Donc il va passer tout son temps et toute son énergie à combattre David. Donc quand vous arrivez sur le chapitre 23, vous avez ça en tête. Je vous ai redonné la ligne à peu près du résumé, très très résumé. Là on arrive à une période où Saül fait tout pour éliminer David. Il ne se remet pas en question, il ne sait pas quoi que ce soit. Son but maintenant, c'est éliminer David. Sachant que, vous le verrez aussi peut-être sur ce texte, oui, Jonathan est resté fidèle à David, Jonathan le fils de Saül. Donc ça rend les choses un peu difficiles. Donc vous devrez en tenir compte, je crois, dans le chapitre 23. Voilà, ben, bon courage, j'ai tenu mon temps. Et j'attends donc dans le courant du mois, quand vous êtes prêts, début du mois, si possible une semaine avant les dernières, mais enfin bon, quelques jours suffiront, pour que je puisse rassembler tout ce que vous avez trouvé au niveau de l'observation, l'interprétation et l'application. Bon, si c'est des choses privées, vous ne me les mettez pas, si Dieu vous a parlé personnellement, mais simplement en gros, une application est possible dans tel ou tel domaine, vous n'avez pas besoin de dire, voilà, j'ai volé mon voisin et... Non, mais voilà, vous me dites simplement des applications possibles, et puis on va mettre tout ça ensemble, et là, on risque de déborder, vous allez voir.